le remède et le mal. Peut-être le meilleur de notre vie appartient-il toujours au passé. James Sallis. Blackwell Hospital, Staten Island, 29 décembre 2014. L'ascenseur ouvrit ses portes au 7e étage. Sanglé dans une blouse blanche, le docteur Esther Haziel sortit de la cabine. C'était une petite femme énergique, aux cheveux blonds cendrés, coupés courts. Elle portait des lunettes rondes en écaille qui mettaient en valeur ses yeux verts pétillants d'intelligence et de curiosité. Un épais dossier sous le bras, elle se dirigea au bout du couloir où se trouvait la chambre 712. Là, elle croisa l'infirmier responsable de l'étage, un colosse bodybuildé que certains surnommaient « double face » à cause de son visage partiellement brûlé.
« Vous m'ouvrez la porte, s'il vous plaît ?»«
Ok, doc, » répondit l'employé. « A priori, le patient est doux comme un agneau, mais vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas de règle avec ce type de gugus. Et puis, je dois vous mettre en garde. Le bouton d'appel d'urgence de la chambre ne fonctionne plus. Donc, au moindre problème, n'hésitez pas à hurler, même s'il n'est pas certain qu'on vous entende, vu que vous nous faites toujours bosser en sous-effectif. »
Comme Esther le foudroyait du regard, double face battit en retraite. « Si on peut plus rigoler, » maugréa-t-il en haussant les épaules. L'infirmier ouvrit la porte et la verrouilla derrière lui. Esther s'avança dans la chambre. C'était une pièce minuscule, une cellule spartiate meublée d'un lit en ferraille, d'une chaise bancale en plastique et d'une table fixée au sol. Arthur Costello était allongé sur le matelas, le buste redressé, calé contre un oreiller. La quarantaine bien tassée, il était encore bel homme, un grand brun mélancolique aux traits acérés qui flottait dans un pantalon trop large et un t-shirt en jersey. Immobile, les yeux vitreux, il semblait ailleurs, absorbé dans une rêverie lointaine.
« Bonjour, Monsieur Costello. Je m'appelle Esther Haziel. Je suis le chef de service du pôle psychiatrie de cet hôpital. »
Costello resta de marbre, ne semblant même pas s'apercevoir de la présence de la psy.
« C'est moi qui suis chargé de signer votre autorisation de sortie. Avant que vous ne quittiez cet établissement, je veux m'assurer que vous ne représentez plus un danger, ni pour vous, ni pour les autres. »
Arthur sortit soudain de sa léthargie.
« Mais madame, je n'ai aucune envie de quitter cet hôpital. »
Esther tira une chaise et s'assit près du lit.
« Je ne vous connais pas, monsieur Costello, ni vous, ni vos livres. En revanche, j'ai lu votre dossier, » assura-t-elle en posant la chemise en carton sur la table qui les séparait.
Elle attendit quelques secondes avant de préciser.
« J'aimerais que vous me racontiez vous-même comment les choses se sont déroulées. »
Arthur regarda le médecin pour la première fois.
« Vous auriez une cigarette ?»«
Vous savez très bien que l'on ne peut pas fumer ici, »
dit-elle en pointant le détecteur de fumée.
« Alors barrez-vous !»
Esther soupira, mais capitula. Elle fouilla dans la poche de sa blouse et lui tendit son propre briquet et son paquet de fines cigarettes mentholées avant de répéter sa question.
« Racontez-moi votre histoire, monsieur Costello. » « Que s'est-il passé le jour de la mort de vos enfants ?»
Arthur coinça la cigarette derrière son oreille.
« J'ai déjà rabâché tout ça à plusieurs reprises à vos collègues. »«
Je sais, monsieur Costello, mais je voudrais que vous me le disiez à moi. »
Il se massa longuement les paupières, respira profondément, puis se lança.
Benjamin et Sophia sont morts le 11 juin 2014. À l'époque, je vivais une période difficile, je n'avais plus écrit une ligne depuis des mois.
La mort de mon grand-père au début de l'année m'avait dévasté. C'est lui qui m'avait donné le goût de la lecture et de l'écriture. Lui qui m'avait offert ma première machine à écrire et qui m'avait guidé dans mes premiers écrits. Je ne me suis jamais entendu avec mon père. Sullivan est la seule personne qui m'ait toujours soutenu, la seule qui ne m'ait jamais trahi.
« Quelle relation entreteniez-vous avec votre femme ?»
demanda Esther. Comme tous les couples, nous avions des hauts et des bas. Comme beaucoup de femmes d'écrivains, Lisa me reprochait d'être trop souvent coupée du monde et de ne pas passer suffisamment de temps avec elle et nos enfants. Elle trouvait que je travaillais trop, que mon univers imaginaire cannibalisait ma vie. C'est pour ça qu'elle m'avait surnommé « l'homme qui disparaît ».
Pourquoi « l'homme qui disparaît »
Parce qu'il m'arrivait trop souvent de disparaître dans mon bureau pour rejoindre mes personnages de papier. Elle disait que, dans ces moments-là, j'étais un déserteur et que je délaissais ma famille. C'est vrai que j'en ai loupé, des réunions de parents d'élèves, des matchs de foot et des spectacles de fin d'année. Sur le coup, tout ça me semblait dérisoire. On pense toujours avoir le temps. On croit que l'on arrivera à rattraper ces moments perdus. Ce n'est pas vrai. Après un instant de silence, Esther Haziel relança l'écrivain.
Donc, à l'époque de l'accident, vous vous étiez éloigné.
C'était même plus que ça. J'étais persuadé que Lisa me trompait.
Sur la base de quels éléments ?
Arthur eut un geste vague de la main. Des conversations de téléphone qui s'arrêtaient lorsque je rentrais dans la pièce, des absences régulières et injustifiées, le code de son téléphone qu'elle avait changé.
C'est tout ?
Ça m'a semblé suffisant pour engager un détective privé.
Et c'est ce que vous avez fait ?
Oui, j'ai contacté Zachary Duncan, alias La Chic, un ancien flic reconverti dans la sécurité que j'utilisais comme consultant pour écrire mes polars. Avec son éternel parka de la Croix-Rouge et son Stetson, il ne paye pas de mine, mais c'est l'un des enquêteurs les plus efficaces de New York. Il a pris Lisa en filature, et une semaine après notre premier rendez-vous, il m'a montré des preuves qui me paraissaient accablantes.
Par exemple ?
Essentiellement des photos sur lesquelles on voyait ma femme en compagnie d'un homme, Nicholas Horowitz, à l'entrée d'un hôtel du centre de Boston. 3 rendez-vous en une semaine, des rencontres qui ne duraient jamais plus de 2 heures. Zachary m'a dit d'attendre la fin de son enquête pour parler à ma femme, mais pour moi, il ne faisait aucun doute que ce type était son amant. Arthur quitta son lit et s'avança vers la fenêtre, regardant à travers la vitre les nuages cotonneux qui filaient vers Astoria.
« J'en ai parlé à Lisa dès le lendemain, » reprit-il.
C'était un samedi. On avait prévu de partir en vacances dans un endroit que j'adorais. 24 Winds Lighthouse, un phare de la région de Cap Cod qu'on louait presque chaque année. Je trouvais que ce vieux bâtiment avait un charme fou et qu'il émettait de bonnes ondes. Souvent, lorsque j'étais là-bas, j'étais inspiré par le lieu et j'écrivais bien. Mais ce matin-là, je n'ai pas attendu que l'on soit au phare pour déverser ma colère sur ma femme. Dès le petit déjeuner, je lui ai montré les photos et je l'ai sommé de s'expliquer.
Quelle a été sa réaction ?
Outré que j'ai engagé un détective pour la surveiller, elle a refusé de me donner des explications. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Finalement, elle a dit aux enfants de monter dans la voiture et elle est partie à Cap Cod sans moi. Et c'est sur le trajet qu'elle a eu l'accident. La voix de Costello se brisa. Il eut une quinte de toux mêlée de larmes avant de marquer une longue pause.
Qu'avez-vous fait lorsqu'elle est partie ?
Rien. Je suis resté paralysé. Incapable de réagir, enveloppé de son parfum, une essence de fleur d'oranger.
« Votre femme ne vous a jamais trompé, n'est-ce pas ?» devina Esther.
« Non, au contraire. Elle s'inquiétait pour moi et elle voulait me faire une surprise. Elle venait de recevoir un gros cachet d'une chaîne de télévision pour jouer dans une série. Je ne l'ai appris que plus tard, mais elle avait utilisé cette somme pour acheter 24 Winds Lighthouse.
Elle voulait vous offrir le phare ?»
Arthur approuva de la tête. Elle savait combien j'étais attaché à cet endroit. Elle pensait qu'après la mort de mon grand-père, ça me redonnerait l'envie et la force d'écrire.
Et cet homme, Nicholas Horowitz ?
Ce n'était pas son amant. Seulement un homme d'affaires de Boston qui possédait une chaîne d'hôtels et plusieurs maisons d'hôtes en Nouvelle-Angleterre. C'était surtout l'héritier de la famille à qui appartenait le phare, une vieille lignée bostonienne qui n'avait pas très envie de se séparer de ce bâtiment historique. Et c'est justement pour les convaincre que ces dernières semaines, Lisa multipliait les rendez-vous et les échanges téléphoniques avec Horowitz. Arthur se tut et alluma sa cigarette. Pendant quelques secondes, Esther Haziel resta elle aussi silencieuse, puis elle se frotta les épaules pour se réchauffer. On était au milieu de l'hiver et la pièce était glaciale. On entendait bien le bruit de l'eau qui circulait dans un radiateur en fonte, mais l'appareil ne diffusait aucune chaleur.
« Que comptez-vous faire à l'avenir ?»
demanda-t-elle en cherchant le regard d'Arthur.
L'avenir ? Quel avenir ?
S'énerva-t-il.
Vous croyez qu'on a un avenir lorsqu'on a tué ses enfants ? Vous croyez que...
La psychiatre l'interrompit fermement.
Vous ne pouvez pas faire ce raccourci. Vous n'avez pas tué vos enfants et vous le savez très bien.
Arthur l'ignora. Il tira nerveusement une bouffée, le regard perdu à travers la vitre.
Monsieur Costello, vous êtes dans un hôpital ici, pas dans un hôtel.
Piqué au vif, il se tourna vers elle. L'air interrogatif. Haziel s'expliqua.
« Beaucoup de patients qui sont soignés à Blackwell souffrent de pathologies lourdes contre lesquelles ils n'ont pas les armes pour lutter. Ce n'est pas votre cas. Vous avez des ressources. Ne vous laissez pas détruire par votre douleur. Faites-en quelque chose. »
Sidéré, Arthur s'insurgea.
« Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?
Ce que vous savez faire de mieux. Écrivez.
Et sur quoi ?
Sur ce qui vous hante. « Retraversez cette épreuve, mettez des mots sur votre peine, extériorisez votre fardeau. Dans votre cas, l'écriture est à la fois le remède et le mal. »
L'écrivain secoua la tête. « C'est pas ma conception du roman. Je ne vais pas imposer mes états d'âme à mes lecteurs. L'écriture n'est pas une thérapie. L'écriture, c'est autre chose. »«
Ah bon, c'est quoi ?»
Arthur s'anima.
« C'est d'abord un travail d'imagination. C'est vivre d'autres vies, créer des univers, des personnages, des mondes imaginaires. » C'est travailler sur les mots, polir une phrase, trouver un rythme, une respiration, une musique. L'écriture n'est pas faite pour guérir. L'écriture, ça fait mal, ça ronge, ça obsède. Je suis désolé, mais nous ne faisons pas le même travail, vous et moi.
Esther lui répondit du tac au tac.
Je crois au contraire que nous travaillons avec le même matériau, monsieur Costello. Le refoulé, la peur, la douleur, les fantasmes.
Donc vous pensez qu'on peut tourner la page comme ça, juste en écrivant?
Qui vous a parlé de tourner la page? Je vous ai simplement conseillé de mettre votre douleur à distance en la cristallisant dans une fiction, de rendre acceptable dans un roman ce qui est inacceptable dans la réalité.
Désolé, mais je suis incapable de faire ça. D'un mouvement vif, Esther Haziel se saisit du dossier cartonné posé sur la tablette pour en extraire plusieurs feuilles photocopiées.
J'ai retrouvé une interview que vous aviez accordée au Daily Telegraph en 2011 pour la sortie d'un de vos romans en Angleterre. Je vous cite.
Derrière le côté chimérique de la fiction se cache toujours une part de vérité. Un roman est presque toujours autobiographique puisque l'auteur raconte son histoire à travers le prisme de ses sentiments et de sa sensibilité. Plus loin, vous ajoutez, pour construire des personnages intéressants, j'ai besoin d'être en empathie avec eux, je suis tour à tour chacun de mes héros, comme la lumière blanche qui traverse un prisme de verre, je me diffracte en chacun de mes personnages. Vous voulez que je continue ?
Arthur Costello refusa de soutenir le regard de la psychiatre, se contentant de hausser les épaules.
Je ne serai pas le premier à raconter des sornettes dans une interview.
Sûrement, mais là, en l'occurrence, c'est ce que vous pensez vraiment. C'est...
Esther allait développer son argumentation lorsque l'alarme du détecteur de fumée se déclencha. Quelques secondes plus tard, Double Face fit irruption dans la pièce.
La vue du mégot et du paquet de cigarettes posé sur la table le mit en colère.
« Ça suffit, docteur. Il faut que vous partiez maintenant.